Gabriel Coulombe, candidat au Parti québécois dans Charlebourg, économiste de formation et également enseignant au Cégep Garneau en économie. Et on vient d'écrire un livre, là, Entreprendre le pays du Québec. Comment allez-vous?
Très bien, merci beaucoup de me recevoir.
Comment on fait ça? Comment on règle l'itinérance au Québec? C'est problématique.
On a proposé un plan d'itinérance. Je suis d'accord avec vous que c'est bien d'aspirer à ce qu'il n'y en ait pas du tout. Nous, on a une proposition, une ambition là, de réduire de 50 % avec des chiffres réalistes au courant des prochaines années. Donc, plein été déposé.
C'est un cas par cas. On les prend un par un, puis on essaie de les sortir. Comment? Non, ça va être compliqué.
Oui, on s'entend.
Bon, dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'économie. Vous êtes économiste de formation. Et vous parlez beaucoup de fédéral, du fédéral qui embauche beaucoup d'employés, beaucoup de dépenses. Mm-hmm. Et on a eu un rapport ici à Québec la semaine dernière de la vérificatrice générale pré-électorale, là, juste avant les élections. Elle donne un peu le portrait, le big picture de ce qui s'en vient. On va devoir trouver des milliards de dollars. Elle parle de au moins 5 milliards à identifier, plus un autre 2 milliards là, qui restait flou, là, on ne savait pas trop, tu sais. Hey, c'est du stock pareil, là, c'est des déficits à venir. Comment au Parti québécois on va faire ça?
Effectivement, nous, les propositions qu'on a faites en lien avec la réduction de la taille de l'État, donc on veut aller couper dans le gras parce que le problème qu'on a eu dans les dernières années avec la CAQ, c'est une augmentation de la taille de la fonction publique. Ce n'est pas été aussi gros que ce qu'il y avait à Ottawa, mais ce n'est pas beaucoup des services, ce n'est pas beaucoup des emplois qui ont été faits pour les services aux citoyens. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment conserver, mais ce qui n'est pas des services directs aux citoyens. On a les plans par rapport à ça. Puis, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe au fédéral. Sous le mandat de Justin Trudeau, la taille de la fonction publique fédérale a explosé de 40 %.
Non, c'est complètement débile.
Donc, il y a énormément de travail à faire. Donc, nous, ultimement, vous l'aurez compris, c'est d'abolir un pan complet de gouvernement. Donc, en abolissant le régime fédéral. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on pense qu'on était capable d'aller faire ultimement des économies. Mais ça peut commencer dès l'élection.
Vous n'aurez pas le choix parce que absolument. Vous voulez faire un référendum à troisième année au moins. Les trois premières années, vous allez devoir être ça à go parce qu'il y a des déficits monstres qui attendent les Québécois. Là.
Oui, effectivement. Donc, dans les premières années,
on coupe
ça va
quoi
être
Santé
ça.
Québec? On coupe des subventions aux entreprises? C'est quoi le plan détaillé?
Les principales propositions restent à venir, mais Santé Québec, effectivement, qui est une structure ultra complexe, on veut mettre la hache là-dedans. Ça n'a pas fonctionné. Du point de vue des subventions aux grandes entreprises. Ça aussi, on veut changer de paradigme. Donc, la CAQ a été extrêmement interventionniste, mais qui a dépensé des centaines de millions de dollars. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une approche davantage tournée vers les PME, donc en réduisant le fardeau fiscal des PME. Donc, on finance en fait la réduction du fardeau fiscal des PME qui représente l'écrasante majorité des entreprises au Québec. Là, plus de 99 % des entreprises au Québec, ce sont des PME. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui fait notre tissu économique, oui. Tissu industriel. Donc, on va financer ça à même la diminution des subventions de la CAQ qui donnait ça au PIF des ministres.
Non, c'est... Dans votre livre, vous abordez plusieurs points qui sont vachement intéressants parce qu'il y a plusieurs auditeurs et plusieurs personnes qui se disent « Ouais, c'est bien beau, la souveraineté, le référendum, tout ça, mais qu'est-ce qui va arriver après ou comment ça va fonctionner après? » Vous avez une section notamment sur la monnaie. Oui. Et ça a été discuté par PSPP là, quand vous avez commencé à publier le livre bleu. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point ce que vous écrivez là-dedans, c'est exactement la même chose que dans le livre bleu.
Oui, peut-être arrimé, évidemment.
Vous êtes arrimé de ce côté-là. Donc, et peut-être essayer d'expliquer ça aux gens. C'est quoi la logique derrière ça? Donc, dans un premier temps, on conserverait le dollar canadien pour après ça arriver vers une monnaie, mais qui serait adossé à une autre devise, puis après ça, aller vers ce que vous appelez une monnaie flottante. Peut-être expliquer ça, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne.
Oui, OK. En fait, le plan qu'on a proposé pour la monnaie, là, ça s'étale sur une période de 10-12 ans. Ça va aussi reposer sur l'établissement d'une commission indépendante sur la politique monétaire, en ce sens que la monnaie, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit politisé. Les banques centrales sont indépendantes du gouvernement et ça doit absolument rester comme ça.
On aurait une banque centrale au Québec?
Éventuellement, oui. C'est ça. N'importe quel pays qui a sa monnaie doit éventuellement établir ça. Donc, le plan qu'on a proposé sur une dizaine d'années environ vers une monnaie québécoise, donc dans un premier temps, de conserver le dollar canadien pendant quelques années, éventuellement de créer une monnaie québécoise, peut-être après, je ne sais pas, 5-6 ans, dépendamment de comment le contexte évolue également, faut en tenir compte. Et ce qu'on proposait, c'est dans un premier temps, cette monnaie-là, qu'elle soit arrimée temporairement à une devise forte, comme plusieurs pays dans le monde le font. Ça pourrait être une seule devise. Le dollar américain, ça pourrait être un panier de devises. Ça reste à déterminer.
Les stablecoins, les crypto-monnaies stablecoins, ça cote sur le dollar américain?
Il y a ça dans l'univers des cryptos, mais il y a aussi beaucoup de pays indépendants là, qui vont faire ça, donc accoter leur monnaie sur une devise. C'est souvent le dollar américain ou l'euro. Dans notre contexte, ça serait plus porteur probablement de faire ça sur le dollar américain parce que nos cycles économiques sont beaucoup plus près.
On est collés sur eux autres. Là.
C'est ça. Mais en même temps, la raison de ça, c'est pour laisser autant à la monnaie, le temps d'établir sa confiance sur les marchés et éventuellement, une fois que ça s'est établi, que la Banque centrale est pleinement opérationnelle, d'avoir une devise québécoise flottante, c'est-à-dire dont le taux de change évolue en fonction de l'offre et de la demande.
Un peu comme le dollar canadien.
Exactement comme le dollar canadien.
Est-ce qu'il y aurait... Y a-t-il une idée de laisser flotter notre dollar plus faible pour être plus attirant aussi au niveau des exportations et importations?
C'est vraiment les marchés qui vont décider ça. En ce sens que... on parle souvent d'une devise forte, une devise faible, c'est-à-dire une devise dont la valeur par rapport à une autre devise est plus élevée, plus basse. Il faut comprendre que l'économie va s'ajuster pour permettre d'avoir une valeur optimale. Une devise faible, ça a des avantages en ce sens que ça permet à nos exportations d'être plus compétitives à l'international.
On est attirant pour les Américains.
Exactement. Là. En contrepartie, une devise forte, ça nous permet, par exemple, d'avoir accès à davantage
des produits importés. Ouais,
exactement. Donc, il y a des avantages, des inconvénients à chaque approche. Donc, c'est souvent les marchés qui vont déterminer la valeur optimale de la monnaie. Donc, il n'y a pas de stratégie, autrement dit, de garder la monnaie soit artificiellement trop forte ou artificiellement trop faible. C'est que ça va s'arrimer en fonction des cycles économiques, donc d'utiliser les vertus de l'économie de marché au bénéfice de la monnaie.
Un des difficultés, je trouve, pour le Parti québécois, ça a toujours été un peu la chose suivante, puis tu ne seras peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est que vous promettez un référendum, mais vous aspirez aussi à gouverner. Absolument. Et dans le livre, tu as une section notamment où tu parles du mirage du nationalisme autonomiste, et tu dis c'est un échec de ce... Les commentateurs appellent ça la troisième voie. Là. Bon, appelez ça comme vous voulez. Finalement, la position qui consiste à dire on n'est ni fédéraliste ni souverainiste. Mais on le voit avec les chiffres. Là. Pour l'instant, mettons qu'il y avait un référendum là, il ne passerait pas. Donc, cette position-là, c'est un peu la position de repli qui devient obligatoire. T'sais, l'évêque, quand il a été réélu, il savait qu'il fallait qu'il gouverne en autonomiste un peu, parce qu'il ne pouvait pas refaire un référendum là. Fait que cette position-là, c'est comme une fatalité, pareil. Tu sais, je comprends qu'on ne veut pas mettre ça de l'avant, mais si on fait un référendum et il ne passe pas, puis on reste au pouvoir, il faut toujours bien gouverner le Québec, pareil. Là.
Oui, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, l'objectif n'est pas le même. Qu'on soit du côté de la CAQ ou des conservateurs, qui dans les faits, le programme autonomiste des conservateurs, c'est très, très, très similaire à celui de la CAQ, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force. On se fait refuser plein de choses, puis après ça, la CAQ se fait dire ben, « sinon quoi? Ben, sinon, ben, on va être encore plus fâchés, on va faire la baboune. » Donc, les fois où le Québec a réellement obtenu des gains dans le Canada, c'est parce qu'il y avait réellement un rapport de force qui s'appelle la possibilité de l'indépendance, et c'est ça qu'on porte au Parti québécois. Et en ce sens-là, moi, je suis convaincu qu'on est capable d'aller faire quelques gains pendant cette période-là, ou du moins d'avoir ce réel rapport de force-là avec le gouvernement fédéral, ce que la CAQ n'a pas jamais été en mesure d'avoir pendant 8 ans, même avec des majorités ultra fortes. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est véritablement un mirage. On a 2 choix, donc de s'assujettir au fédéralisme canadien ou l'indépendance politique.
Le budget de l'an 1, on est-tu déficitaire? Comment ça fonctionne? Ben, les premières années, j'imagine que faire un pays, là, t'en manges des coups, là. Hein, l'armée aussi, là, l'armée, on va mettre un montant important dans l'armée. C'est quoi le timeline du budget 1, 2, 3, 4? On est déficitaire, j'imagine? On l'est déjà là, actuellement?
Bien, ce qu'on a fait en 2023, ce budget-là, c'est vraiment de reprendre les cadres financiers du gouvernement du Québec et du Canada sans faire de choix politiques. Donc, qu'on soit en accord ou non, on regardait où le Québec envoie de l'argent, comment il finance ça et de reproduire exactement la même chose. Ça, c'est un exercice qu'on s'est engagé à refaire avec les moyens de l'État pour vraiment... Le but, c'est de donner un portrait, de donner l'heure juste à la population. Ouais. Et la réalité, c'est que l'indépendance du Québec, c'est d'arrêter d'envoyer 90 milliards de dollars à Ottawa pour gérer ces 90 milliards de dollars-là nous-mêmes, pour l'investir dans nos priorités, donc en santé, en éducation, dans nos infrastructures. Et souvent, on se fait dire, ouais, ben là, c'est des nouvelles dépenses, l'armée, les affaires internationales, comment qu'on va faire pour payer ça? Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que on paye déjà pour tout ça. On envoie déjà de l'argent à Ottawa et c'est nous qui finançons l'armée, c'est nous qui finançons les affaires internationales. Donc, c'est de l'argent qu'on envoie déjà, qu'on va nous-mêmes utiliser pour l'armée et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est géré par Ottawa.
Mais est-ce qu'on est déficitaire? Parce que j'imagine que partir un pays, là, c'est gros, là.
Oui, bien, présentement, les budgets du Québec sont déficitaires. On le voit là, jusqu'en 2029. Au fédéral, j'aimerais rappeler que les budgets ont été déficitaires à chaque année.
75-80 milliards de déficit par année.
C'est ça. Donc, c'est prévu comme tel, donc en refaisant les mêmes dépenses. Mais après ça, ce qu'on peut faire, c'est des choix différents qui vont nous amener à une responsabilité fiscale plus grande que ce qu'on a actuellement. Mais c'est ça, on est pris quand même dans le Canada qui nous enfonce dans l'endettement, dans les déficits.
On serait déficitaire.
Effectivement, comme les budgets de la CAQ ont été déficitaires, ouais. Ils sont déficitaires au fédéral, dans un premier temps, on ne peut pas faire de miracle non plus, mais après ça, on a l'autonomie de prendre nos propres décisions plutôt que de se faire enfoncer dans l'endettement comme Ottawa qui nous endette à hauteur là, de 16 milliards de par année là, pour le Québec.
L'armée, on met ça en place la première année, c'est quoi l'an 1? Ça ne prend une armée si on va être très, très vulnérable.
Dans la mesure où on finance déjà l'armée, donc les soldats, les infrastructures qui se trouvent sur le territoire québécois, puis ça, j'en explique dans mon livre, c'est expliqué dans les Vues Bleues aussi, ce sont des actifs qui appartiennent déjà au Québec. Donc, on se fait dire des fois, mais là, une armée québécoise...
le quartier deviendrait propriété du gouvernement du Québec.
Exactement, parce que c'est ce que préconise le droit international. Donc, tous les actifs qui se trouvent sur le territoire québécois demeurent ici. En contrepartie, les passifs, donc la dette du gouvernement canadien, on s'engage à en prendre une partie qui correspond aux actifs. Donc, on se fait souvent dire ça aussi. Oui, mais là, on part du Canada.
Mais tu ramasses les actifs qui vont avec. Là.
Exactement.
Les immeubles fédéraux, les parcs nationaux, les plaines d'Abraham deviendraient propriété du gouvernement du Québec.
Exact. Et ça se fait automatiquement et sans compensation, pour autant qu'on prenne notre juste part de la dette, qui, évidemment, ça va donner lieu à des négociations. Mais
ça peut ressembler à quoi? Parce que c'est une question qui revient beaucoup dans le texto. Le Mario Trois-Rivières qui nous dit ça, qui nous demande ça. Quelle sera la part que le Québec récupère dans la dette canadienne advenant une séparation?
Oui, très bonne question. Donc,
une dette de 1500 milliards à peu près? Là.
C'est dans ces eaux-là. Donc, le poids du Québec, c'est... Je n'ai pas les chiffres exacts, là, ça s'actualise toujours,
22...
mais c'est plus autour, selon les actifs, donc c'est plus autour de 18 %. Là, okay. Ça va tout être, c'est calculé dans les finances d'un Québec indépendant, ça va l'être refait, mais c'est ça, dans ces eaux-là, peut-être autour de 250 milliards, mais c'est de comprendre que même par rapport à un Québec indépendant avec sa juste part de la dette fédérale, on est quand même, quand on compare le PIB la dette par rapport au PIB,
oui.
On est moins endetté que le Canada, moins endetté que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, on est dans une situation avantageuse. C'est autour là, de notre dette, ratio dette PIB présentement, qui est autour de 38 % du PIB. En incluant notre juste part de la dette canadienne, ce qu'on a calculé dans les finances d'un Québec indépendant, c'est qu'on passait autour de 50 %, ce qui est plus avantageux, beaucoup moins endetté que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, tous des pays qui ont absolument les moyens d'être indépendants, évidemment, tout comme le Québec.
Non, il y a beaucoup de... Écoute, les gens, visiblement, sont intéressés par ce sujet-là. On peut peut-être, Pierre, prendre une ou deux questions encore, parce que je pense que c'est bien d'aller avec ce que les auditeurs disent. Par exemple, dans un Québec souverain, comment ça fonctionnerait au niveau de la taxation? Est-ce que vous allez chercher le 5 % de la TPS pour harmoniser avec ce qui existe déjà au niveau de la TVQ?
On reste taxé comme on est.
On essaie de baisser les taxes. Comment ça fonctionne?
Dans un premier temps, c'est de garder ça au même niveau. Donc, les exercices qu'on a faits assumaient qu'on avait le même niveau de taxation, mais ultimement, évidemment...
Ça sera aux partis politiques en place de décider.
Exactement. Ça, c'est pas des décisions qu'on peut... On peut pas engager les prochains gouvernements du Québec, qui parfois vont être plus à droite, parfois vont être plus à gauche, qui vont vouloir gérer les taxes comme ils veulent. Donc, la différence, c'est que ça nous donne la possibilité de gérer nous-mêmes cette fiscalité-là. C'est les prochains gouvernements qui vont décider.
Hey, tabarouette, on aurait pu faire 2 heures.
On aurait pu faire... écoute, c'est le texto est en feu.
Oui, beaucoup de questions. Puis c'est le but, c'est pas de planter, là, c'est essayer de comprendre la démarche. Gabriel Coulombe, candidat du PQ, Parti québécois dans Charlebourg, économiste, hein, quand même, prof d'économie. Vos jeunes d'un classe doivent être allumés là-dessus aussi.
Oui, c'est pas des sujets dont je parle. Je suis vraiment sur la théorie économique, mais oui.
Ceux qui veulent lire le livre, ça se trouve où?
Il est disponible dans plusieurs succursales du réseau des libraires indépendantes. Il vient de rentrer chez Renaud Bré. Il est disponible sur les sites de l'Action nationale, la boutique 50% plus 1, l'Accent bleu. Donc, juste taper le titre sur Internet, puis ça se trouve très facilement.
Oh, ben, merci beaucoup de votre présence. Puis ben, la campagne commence dans les prochaines heures. Mm-hmm. Hein? D'après moi, ça va partir. Puis ben, au plaisir de se reparler.
Ben,
merci
quand
beaucoup.
Vous voulez.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon, ben Frank, après la pause, on jase de sondage hein,
oui.
avec Rodolphe. D'après moi, il va débarrer sur bien des affaires.
D'après moi, oui.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.